selon Luc au chapitre 23. Luc, chapitre 23. Nous lisons verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent : Crucifie, crucifie-le ! Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous allons au verset 33 pour continuer notre lecture. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs. On va au verset 44. Il était déjà environ la sixième heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : Certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. J'aimerais donner un titre à notre méditation ce soir, un titre qui peut-être va vous surprendre. Le spectacle de la croix. C'est un titre qui peut surprendre. Le spectacle de la croix. Qu'est-ce qu'un spectacle ? Selon le dictionnaire, c'est la vue d'un ensemble qu'embrasse le regard. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois le Mont Blanc enneigé. C'est vraiment le Mont Blanc. Et puis un soir, j'ai eu l'occasion, alors que le soleil se couchait, de voir le mont couvert de neige, mais avec le coucher du soleil, il n'était plus blanc, mais il avait une couleur un peu de rose saumon. C'était magnifique. C'était un beau spectacle. Un ensemble qui s'offre à notre regard. Volant vers Tahiti pour une mission au sein des Assemblées de Dieu de cette île, nous avons abordé une partie du Groenland. D'ailleurs, j'étais étonné qu'on commence par l'Angleterre, en partant de Paris pour aller à Tahiti, mais en passant près du pôle Nord, c'est plus court, c'est plus rapide, il y a quand même 20 heures de vol en tout. Mais en passant au-dessus, enfin une partie du Groenland, nous avons vu des montagnes de glace sous un soleil éclatant. C'était un beau, très beau spectacle. Dans le Pacifique, nous avons survolé l'île de Waïné avec ses sables, des plages de sable blanc, d'une blancheur éclatante, l'eau bleu turquoise des lagons. Ce sont des couleurs magnifiques. C'est vraiment un beau spectacle. Vous avez tous, comme moi, vu un jour des vidéos du commandant Cousteau. Je sais nager, je ne suis pas un champion, mais je sais nager. Mais quand je nage, j'aime bien avoir la tête en dehors de l'eau. Alors quand je regarde l'eau, elle est toujours la même couleur. Quand je suis au Havre, si le ciel est gris, et c'est partout pareil, même la Méditerranée, si le ciel est gris, l'eau elle est grise. Si le ciel est bleu, l'eau elle est bleue. Mais c'est toujours la même couleur. Mais le commandant Cousteau nous a fait découvrir les merveilles des profondeurs de la mer. Ces multitudes de plantes diverses, non seulement dans leur forme, mais dans leur couleur. Ces multitudes de poissons qui sont tellement magnifiques. Et dans le Pacifique, il y a des poissons merveilleux, formidables. Ah, c'est un beau spectacle. Quand on peut voir les fonds marins, l'œuvre de Dieu, elle est quand même magnifique. Je n'hésite pas à dire que notre Dieu, créateur, est un véritable artiste. Le célèbre roi David a écrit environ 1000 ans avant Jésus-Christ, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Et l'apôtre Paul écrira aux croyants de l'Église des premiers temps qui se trouvaient à Rome, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, dans ses œuvres, quand on y réfléchit. » L'Écriture ajoute, « Ils sont donc inexcusables. » La création avec toutes ses merveilles est là pour nous interpeller. Il faut être fou pour dire « ça s'est fait tout seul ». D'ailleurs, la Bible dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Si je vous disais que ma montre, elle m'est arrivée comme ça un jour toute seule. S'il y a une création, c'est parce qu'il y a un créateur. Et la création tout entière, dans toutes ses merveilles, dans sa diversité, est là pour nous interpeller, pour interpeller tout être humain. Et malheureusement, le véritable athée, ça n'existe pas. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais ceux qui se disent athées, ce sont en fait des gens qui rejettent Dieu. On n'en veut pas. Malheureusement, j'ai vu aussi en Afrique le triste spectacle de la misère, de la souffrance, des gens dans le plus grand dénuement à cause de la malnutrition, alors que dans nos pays occidentaux, on gaspille, on jette. Comme l'on dit, je ne sais pas si ça se dit chez vous aussi, mais en Normandie, il en est qui creusent leur tombe avec leur fourchette. Tellement ils mangent. Puis un jour, il y a un problème de santé sérieux. Georges Clemenceau, un homme au caractère bien trempé, surnommé un tigre au grand cœur, a dit ceci, « Si l'on appliquait fidèlement les enseignements de l'Évangile, le problème social serait résolu. » Eh oui, c'est aussi simple que cela. Si l'on appliquait les principes de l'Évangile, à savoir que celui qui est riche pense aussi aux pauvres. Vous savez, il y a des riches, moi je ne voudrais pas être à leur place. Vous lirez à la maison le chapitre 5 de l'apôtre Jacques, où Dieu s'en prend aux riches qui exploitent les pauvres pour s'enrichir encore plus. Eh bien, comme tout être humain passera devant Dieu, au dernier jour, ils auront des comptes à rendre. Ce n'est pas un péché d'être riche. Quand les biens ont été gagnés honnêtement ou à cause d'un héritage, ce n'est pas un péché d'être riche. Mais quand quelqu'un est riche, l'Écriture lui conseille vivement de savoir aussi s'occuper du pauvre. Partager un peu. Mais s'enrichir encore plus en exploitant les pauvres, eh bien, vous lirez à la maison le chapitre 5, « Je ne voudrais pas être à leur place ». Le triste spectacle qu'on le retrouve en Afrique et dans bien des pays, de la misère, de la souffrance. Quelquefois, certains, quand ils assistent à un match de football, ils disent « Ah, c'était un beau spectacle !» Les buts ont été formidables, quand un tel a mis un but d'une manière extraordinaire, etc. Il y a aussi des représentations théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques, des films qui malheureusement ont bien souvent pour toile de fond l'indécence, l'immoralité, la violence, l'adultère, le péché. Alors faisons attention à ce que nous pouvons regarder comme film à la maison. Faisons bien attention, car il y a des films très intéressants, surtout des documentaires, ou des films comme le... J'ai jamais le temps de regarder, mais je me rappelle même plus du titre, là, Le Vendredi Soir, Thalassa. Des choses comme ça, qui nous font découvrir un peu le monde. Des films documentaires, ça c'est bon. Mais attention, il y a tellement de films où il y a pour toile de fond la violence, l'immoralité, l'adultère, etc., etc. Alexandre Vinet, qui a été considéré comme le plus grand penseur évangélique du XIXe siècle, disait « Le goût du spectacle consiste à voir la vie comme elle n'est pas. C'est le besoin de se faire illusion. Quand un peuple fait du spectacle son pain spirituel, il y a lieu à de tristes réflexions. » Je dirais, mais parler de spectacle en parlant de la croix de Christ, ben je vous avoue que pendant longtemps, j'étais plutôt réticent. Mais un jour, en réfléchissant à ce que l'Écriture dit, à ce que nous avons lu concernant la mort du Christ en croix, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. J'ai lu le récit d'un événement que certains ont appelé le dernier spectacle. Je vais vous le résumer rapidement. Ça s'est passé à Anvers, une grande ville portuaire de Belgique, en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée allemande, blessée à mort, cède sous la pression des alliés. Chez les Anversois, le chœur est déjà à la fête et les lieux de plaisir accueillent déjà de nombreuses personnes conquises par la psychose de la victoire. Mais l'Allemagne, comme une bête aux abois, n'a pas dit son dernier mot. Et c'est pour Anvers le début d'un cauchemar. C'était au cours d'une séance de cinéma, alors que 800 personnes suivaient avec passion le déroulement d'un film, soudain, dans un fracas apocalyptique, un V2, c'est tout premier missile allemand, un V2 pénétrait dans la salle et venait percuter le grand écran. Dans l'enchevêtrement des décombres, on chercha en vain quelques survivants, mais fait frappant. Les deux rangées de fauteuils du fond ont laissé une impression terrible. Pourquoi ? Parce que leurs occupants étaient figés, les yeux fixés sur l'écran, apparemment vivants, mais tous morts à cause du souffle de l'explosion. C'était leur dernier spectacle. Cette histoire authentique peut nous rappeler de prendre au sérieux cette réalité, c'est que le diable, l'adversaire de nos âmes, celui qui veut nous perdre, celui qui veut nous entraîner avec lui dans les tourments éternels, essaie de nous distraire par toutes sortes de spectacles pour nous détourner et détourner nos regards, nos pensées du véritable spectacle qui devrait marquer notre vie, celui du Christ mourant sur la croix du calvaire. Et c'est pourquoi l'Écriture emploie cette expression, tous ceux qui assistaient à ce spectacle. Jésus a été arrêté alors qu'il était en prière dans le jardin de Gethsémané. Jésus a été trahi, vendu pour le prix d'un esclave, 30 pièces d'argent. Jésus a subi un jugement, une condamnation, on ne peut plus injuste. C'est la plus grande injustice de tous les temps, alors que Pilate reconnaît lui-même que Jésus est innocent, il le lâche à ses bourreaux, lâchement il le livre à ses bourreaux pour qu'il soit crucifié, alors qu'il a déclaré qu'il était innocent. Imaginez un petit peu, je ne sais pas s'il y a un palais de justice ici, mais il y en a au moins un à Aix-en-Provence. Imaginez que vous êtes dans le palais de justice, et puis il y a quelqu'un qui est là dans le palais, accusé de je ne sais quoi, et alors que la défense est intervenue, Voilà que le tribunal, le juge a dit, voilà, cet homme est innocent. Et aux gendarmes, il leur dit, vous lui mettez les menottes et vous l'emmenez en prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait des réactions. Et non, s'il est innocent, faut le laisser libre. Pilate déclare que Jésus est innocent. Je ne le trouve coupable de rien de ce dont vous l'accusez. Et lâchement, il le livre à ses bourreaux. Pauvre Pilate, il a mal terminé, hein, très mal terminé. La parole de Dieu nous dit qu'ils l'emmenèrent au calvaire, Golgotha, et ils le crucifièrent là. Quatre mots. Ils le crucifièrent là. Mais quelle souffrance! Quelle terrible souffrance! Il a subi là, sur la croix. Ils le crucifièrent là. Cicéron a défini la crucifixion comme le châtiment le plus cruel et le plus odieux qui soit. Et Origène la qualifie de suprême infamie. Un innocent, un homme qui n'a fait que du bien, un homme qui, comme le dit l'apôtre Pierre, allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, il consolait, il apportait une parole d'encouragement, une parole d'espérance, il aidait celui qui était au fond du trou, qui n'en pouvait plus, il lui redonnait l'espoir, il guérissait toutes sortes de malades. Il a même ressuscité des morts. Le bienfaiteur par excellence, il est traité comme un bandit, comme un brigand. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été fouetté. Les soldats romains avaient des fouets avec un petit manche et les lanières de cuir étaient armées à leur extrémité. Soit d'os pointu, soit de clous. Et quand le soldat, les deux soldats en principe, fouettaient le dos du condamné, courbé, le dos nu, les mains attachées, il déchirait littéralement son dos. Et le prophète cite cette parole qui concernait justement le Christ, « Ils ont labouré mon dos ». Il arrivait quelquefois que le coupable mourait là, au pied du poteau. Jésus a subi ce supplice horrible. La parole de Dieu nous montre qu'ensuite il a porté sa croix. Mais faiblissant, ayant déjà perdu pas mal de sang, on a réquisitionné un passant, un certain Simon de Cyrène, pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus ne devait pas mourir là. Selon les prophéties, il devait mourir sur une croix. Le roi David, quelques mille ans avant, en psaume 22, parle des clous qui ont percé les mains de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Nous ne pourrons jamais réellement évaluer l'intensité des souffrances de Jésus. Elles furent infernales dans le plein sens du terme, non pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Sur le plan physique, je ne saurais décrire tout ce qu'il a pu souffrir. Quand les clous de fer ont transpercé ses mains et ses pieds. Vous vous êtes déjà piqué avec une épine? Avec une aiguille? Vous imaginez les clous, gros comme mon petit doigt, qui traversent ses mains et ses pieds. Les souffrances physiques ont été terribles, mais aussi souffrances morales. Lui, le parfait, le pur, sans péché, le bienfaiteur par excellence, est mis, cloué sur une croix, la mort la plus infâme, entre deux brigands. Vous vous imaginez, vous, vous retrouver entre deux brigands de grand chemin, alors que vous êtes innocent? Souffrance morale, mais aussi souffrance spirituelle. Parce que la Bible nous enseigne que alors que Jésus était chargé de nos péchés, alors que Jésus avait fait venir sur lui les péchés du monde entier, alors qu'il était là presque comme l'incarnation du péché, il a été fait péché, dit la Bible. Pas pécheur, mais péché. Il a été traité comme l'incarnation des péchés du monde entier. Jésus a poussé un cri déchirant. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, ça a été pour Jésus plus terrible que les souffrances physiques, plus terrible que ses souffrances morales, la souffrance spirituelle, cette séparation avec son Père. Il vivait une communion intime de tous les instants avec Dieu son Père. Et là, le Père qui est pur, parfaitement pur, absolument saint, qui ne peut pas voir le mal, comme dit le prophète Habacuc, a dû détourner son regard de son Fils qui était chargé de nos péchés. Ça a été le plus terrible pour Jésus. Et puis, la parole de Dieu nous dit que pendant ces 3 heures de ténèbres, entre midi et 15 heures, Jésus ayant été crucifié à 9 heures, pendant ces 3 heures de ténèbres exceptionnelles, le soleil s'est caché, une nuit surnaturelle s'est abattue sur le pays. C'est pendant ces 3 heures de ténèbres, alors que Jésus subissait le châtiment le plus terrible, que Jésus a poussé ce cri déchirant. Et après, Jésus a poussé cet autre cri, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter, l'œuvre de Jésus est parfaite, que son nom soit loué. La Bible dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Une version a traduit, beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu, a traduit une version, comme une incarnation du péché. Il a été, selon l'expression du livre du Lévitique, sacrifice auquel les Juifs étaient habités, le bouc émissaire. On entend quelquefois encore cette expression. C'est le bouc émissaire, il a payé pour les autres. C'est ce que Jésus a été. La Bible dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. On comprend ce que ça veut dire quand on entend dire de quelqu'un, il a été enlevé par un infarctus. C'est l'infarctus qui l'a tué. On entendra dire de quelqu'un d'autre, il a été enlevé par une embolie. C'est l'embolie qui l'a tué. Jésus a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ce sont nos péchés, les vôtres et les miens, qui ont tué Jésus. Prenons bien conscience de cela. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. J'ai longtemps été étonné de trouver ce mot « spectacle » pour parler de la mort de Jésus. Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Je pensais que c'était un mot qui ne convenait pas. Mais l'évangéliste Luc a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait très bien ce que chaque mot veut dire. Alors j'ai regardé un peu plus près dans le dictionnaire. Et voici, je vous ai donné une partie de la première partie de la définition. Ensemble de choses ou de faits qui s'offrent au regard. Et la deuxième partie, capable de provoquer des réactions. Un spectacle provoque des réactions. Quand c'est un beau spectacle de la nature, on est émerveillé. Comme c'est beau, on le dit. Quand c'est un spectacle de détresse, devant soi, il y a une réaction. On essaie d'apporter le peu qu'on peut avoir pour, c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais on essaie de faire quelque chose pour aider le prochain. Capable de provoquer des réactions. Je l'ai dit tout à l'heure, le diable essaie de nous distraire par toutes sortes de spectacles pour nous détourner du spectacle que Dieu a voulu que le monde regarde avec les yeux de son cœur, celui du Christ crucifié, mort sur la croix pour nos péchés. Alors on a quelques réactions dans la Bible. Je lis par exemple, le peuple se tenait là avec, et regardait. Certains avec une certaine curiosité, d'autres avec compassion, d'autres malheureusement dans une totale indifférence. Mais l'indifférence est déjà une réaction. Le Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Dans la Bible, la neutralité, ça n'existe pas. on est pour ou on est contre. Les chefs religieux, me dit la Bible, ricanaient et se moquaient de Jésus. Voilà quelle fut leur réaction. Les soldats aussi se moquaient de lui, tout en le mettant au défi de se sauver lui-même. Sauve-toi toi-même, descends de la croix, et si tu le fais, on croira en toi. C'est faux, ça. Hein? On a vu des gens qui ont expérimenté par la grâce de Dieu de véritables miracles dans leur vie, et ils ne se sont pas tournés vers Dieu pour autant. À Rouen, je me souviens de cette réunion d'un certain vendredi soir, où on avait une réunion de prière et étude biblique, et puis la réunion venait de se terminer. Un couple qui était là pour la première fois, emmené à la réunion par des amis chrétiens, l'ont conduit vers le pasteur. Il m'a dit, frère, on aimerait que vous puissiez prier pour notre ami. C'est un boulanger, il a un cancer, il est presque en phase, enfin proche de la phase terminale. Le pasteur, j'étais jeune stagiaire à l'époque, le pasteur a tapé des mains pour rétablir un peu le silence, tout le monde se saluait. Il a dit, on va prier pour un ami ici qui a besoin de la grâce de Dieu. Debout, chacun où on était, nous sommes recueillis, le pasteur a prié pour lui. Le Seigneur a entièrement guéri ce boulanger de son cancer. Il a repris son travail, et vous savez qu'un travail de boulanger, c'est pas le travail le plus cool. Hein. On l'a pas revu aux réunions. Et puis, une chrétienne l'a rencontré, lui a dit, dites donc, vous venez plus aux réunions, le Seigneur a été bon envers vous. Oh, c'est parce que ça devait arriver comme ça. C'est terrible. L'indifférence est un rejet. Vouloir être indifférent, c'est ne pas vouloir dire oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiait l'injurien, l'autre le reprenait, disant, pour nous c'est justice. Nous recevons ce que méritent nos crimes, mais lui il n'a rien fait de mal. Et il s'est tourné vers Jésus en lui disant, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu vas d'abord passer au purgatoire. Non. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le purgatoire, ça n'existe pas. C'est une invention humaine qui n'est pas dans la Bible. Et croyez-moi, il me semble que si le purgatoire existait, que c'est le premier qui aurait dû y entrer, le brigand qui avait du sang sur les mains. Mais Jésus lui dit, parce qu'il s'est repenti avant d'entrer dans l'éternité, tu seras avec moi dans le paradis. Il a eu une bonne réaction, lui. L'officier romain qui était là avec quelques soldats au pied de la croix a eu cette remarque en voyant ce qui s'était passé. L'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, aucun doute, cet homme était juste. On remarque que parmi tous ceux qui étaient là, qui ont vu ce terrible spectacle de la croix, il y a eu des réactions positives ou négatives, mais il y a eu des réactions. Permettez-moi de vous poser la question. Devant le spectacle de la croix, quelle est votre réaction? Pour nous, la plupart, nous avons compris que c'était la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Nous y avons cru. Nous avons pris conscience que c'était pour nous que Christ était mort pour nos péchés. Nous avons pris conscience que c'était pour nous que le Christ avait été meurtri dans son corps. Et la Bible dit que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. La guérison n'est pas le résultat de nos œuvres, de nos mérites, de nos sacrifices, mais elle est le résultat de ce que le Christ sur la croix, dans ses meurtrissures, a porté nos maladies. Dans une ville du centre de l'Angleterre, un enfant est né sans oreille. Bon, les parents en ont été malheureux, mais elles ont redoublé d'affection pour leur enfant. Puis l'enfant a grandi. Et il est arrivé le temps d'aller à l'école. Vous savez comment sont les enfants? Ils sont parfois cruels. Hein? Il n'y a pas d'oreille. T'as vu? Regarde-le. Et le gamin, il en souffrait. Il voyait bien qu'on se moquait de lui. Et sa maman s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. Elle lui a posé quelques questions. Alors il a expliqué. Ce qui n'a fait qu'augmenter la souffrance des parents. Et puis, à un moment, l'enfant n'est pas venu à l'école. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. d'être malade, d'être souffrant pour quelques jours, etc. On ne s'est pas trop inquiété. Et puis le garçon qui revient à l'école avec deux oreilles. Ah, quelle surprise. Il s'est posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même bien lui, il n'avait pas d'oreilles. Mais tout le monde a compris, quand ils ont vu la maman qui venait chercher le gamin à la sortie, elle n'avait plus d'oreilles. Elle avait dans sa souffrance, mais dans son amour pour son fils, qui était malmené à cause de son infirmité, elle avait accepté l'opération et de donner ses deux oreilles à son fils avec une greffe. Elle a pris sur elle l'infirmité de son fils. La Bible dit que Jésus a pris sur lui nos péchés et nos maladies. Voilà le sens de l'œuvre de la croix. Nos maladies et nos péchés. Il a versé son sang pour nous purifier, que son nom soit béni. Tous ceux qui ont vu ce spectacle de la croix, avec les yeux de notre cœur, regardons un peu le spectacle de la croix. Le Christ, souffrant, des souffrances que nous ne pourrons jamais mesurer, par amour pour chacun d'entre nous, afin de nous faire échapper aux souffrances éternelles de l'enfer. Voilà la raison. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on périsse en enfer éternellement, et pour ce faire, eh bien, lui qui est saint et juste devait sanctionner les péchés, et le Christ s'est offert pour payer à notre place. Mais permettez-moi aussi de dire, avant de terminer, que Dieu voit aussi, lui, le spectacle de notre vie, si je peux employer ce mot. La Bible dit, c'est vrai, que Dieu suit de son regard ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, afin de prendre en main leur cause, oui. Mais la Bible dit aussi que nulle créature n'échappe au regard de Dieu, que tout est à nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous et moi, un jour ou l'autre, nous fermerons les yeux à la terre et nous serons placés devant Dieu, qui sait tout du spectacle de notre vie, et nous aurons à rendre compte. Alors pour la plupart d'entre nous, conscients que nous étions pécheurs, que nous avions offensé Dieu, nous avons supplié Dieu de nous pardonner, et nous avons cru dans la valeur, l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons cru dans l'efficacité du sang de Jésus qui nous a purifiés, et nous avons le pardon. La Bible dit que celui qui accepte le Christ, il n'y a plus pour lui aucune condamnation. Amen. D'où la paix et la joie dans notre cœur, le bonheur de le connaître. La Bible dit encore, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe. Il observe tous les habitants de la terre, il est attentif à toutes leurs actions. Vous vous rendez compte? Jeune ou moins jeune, homme ou femme, riche ou pauvre, croyant ou incroyant, Dieu, du haut de son ciel, nous observe. Parce que Dieu est infiniment grand. Observer, c'est quoi? C'est pas seulement jeter un regard furtif, mais observer, c'est prêter attention. Regarder attentivement. Dieu nous observe et nous aurons à rendre compte. Parce que la vie que nous avons n'est pas notre propriété, elle est un don de Dieu. Il nous a prêté vie. Vous connaissez l'expression d'un certain auteur français, petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Dieu nous a prêté vie. Un jour, il faudra la lui rendre. Et quand on nous prête quelque chose, on ne peut pas le garder indéfiniment. Il faut un jour ou l'autre le rendre. Et si on vous prête une voiture, et que vous rendez la voiture cabossée de partout, on va vous demander des comptes. Oui, non? Dieu est attentif au spectacle de notre vie à chacun de nous. Il connaît nos mensonges, nos actes malhonnêtes, l'adultère peut-être, les sentiments de jalousie, de rancune, d'amertume, de violence verbale ou physique. Dieu sait tout, il connaît tout, absolument tout, de A jusqu'à Z de notre vie. J'aimerais vous dire, chers amis, que personne n'a le droit de dire « Dieu n'a rien à me reprocher ». Christ ne peut pas le dire. Personne n'a le droit de dire « Le bon Dieu ne peut rien me reprocher. » J'ai souvent entendu « Le bon Dieu n'a rien à me reprocher, je n'ai ni tué ni volé. » Comme s'il y avait que ça. Voler, c'est peut-être pas sûr. Hein, parce qu'il y en a qui ne se gênent pas. En faisant des fausses déclarations, par exemple. Il y a un tas de choses semblables. Tuer. On peut tuer la réputation de quelqu'un avec sa langue, hein, sans pour autant avoir du sang sur les mains. On peut tuer quelqu'un avec une parole qui va le casser. Le Seigneur voit le spectacle de notre vie. Alors, qui que vous soyez, homme ou femme, jeune ou moins jeune, sachez que vous comme moi, nous passerons devant Dieu, devant celui qui sait tout, qui voit tout, qui dans son amour n'a pas voulu qu'on passe l'éternité en enfer, et c'est pourquoi il a donné son Fils. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, n'a pas voulu non plus qu'on soit condamné, et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit la Bible, que de donner sa vie pour ses amis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu. Avouer nos fautes à Dieu. Les abandonner. Demander sa grâce pour marcher dans une vie nouvelle selon les principes de sa parole. Se repentir de ses péchés. Je disais dimanche que la repentance, c'est la restitution. Rappelez-vous l'histoire de la caisse à outils. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Hein. C'est irréparable. Comme je disais, si vous coupez la tête à quelqu'un, vous ne pouvez pas le réparer. Hein. Mais la repentance, c'est pas seulement de demander pardon du bout de lèvres et puis de continuer. Hein. La repentance, c'est un changement de mentalité par rapport au mal, par rapport au péché, qui nous amène à changer de conduite, de comportement, à changer de vie. Je terminerai par une question. Ne me répondez pas. Avec les yeux de votre cœur, en regardant le spectacle de la croix, du Christ mourant pour nous, quelle sera votre réaction? Que ferez-vous de Jésus? Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'au dernier jour, quand nous paraîtrons devant Dieu, Jésus fera de nous ce que nous aurons fait de lui. C'est aussi simple que cela. Au dernier jour, quand nous fermerons les yeux à cette terre, Jésus fera de nous ce que nous, nous aurons fait de lui. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au paradis. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre porte pour entrer au paradis. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. L'apôtre Pierre dira, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. C'est le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pour pas qu'on se trompe, l'Écriture précise, Jésus, Christ, homme qui s'est sacrifié pour nous. Quelquefois on m'a dit, comment voulez-vous savoir dans toutes les religions quelle est la bonne? C'est pas une religion qu'on vous prêche. C'est un homme. L'homme de Nazareth. Jésus, le Fils de Dieu. Qui est le seul sauveur. L'apôtre Pierre dira, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Au dernier jour, Dieu fera de vous, Jésus fera de vous, ce que vous, vous aurez fait de lui. Alors à ceux qui se repentent de leurs péchés, à ceux qui placent leur foi dans la personne de Jésus, à ceux qui s'engagent à le suivre en comptant sur sa grâce pour marcher selon les principes de l'Évangile qui sont les meilleurs pour vivre une vie heureuse, la Bible dit, aucune condamnation, et ils entendront, c'est Jésus qui le dit, entre dans la joie de ton maître. Mais pour ceux qui auront voulu être indifférents, qui est déjà une attitude, une réaction, ou qui n'auront pas voulu en entendre parler, c'est terrible, mais ce sera leur sort, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous en supplie. puisque Jésus vous aime et qu'il n'a pas hésité à se sacrifier pour vous sauver, acceptez de le suivre et de l'aimer vous aussi à votre tour. C'est la plus belle de toutes les vies. Et non seulement la plus belle de toutes les vies, qui ne veut pas dire sans difficulté, sans souci, sans épreuve, mais quand Dieu est avec nous, ça change tout. Mais l'avenir éternel surtout. Être avec Christ dans la gloire. Moi j'ai fait mon choix. J'avais 18 ans quand j'ai choisi de suivre Jésus. La Bible nous dit ceci: j'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, choisis. Dieu nous a créés libres. Hein. Ce n'est pas un despote, un tyran qui tirerait les ficelles de notre vie comme si nous étions des marionnettes. Non, non, Dieu nous a créés libres. Choisis.